Le fleuve. Un enfant de 7 à 8 ans habitait avec son père, veuf, ivrogne et brutal, le quartier de la place Maubert, à Paris. L'homme partait de bonne heure, laissant à l'enfant pour sa journée une croûte de pain et la clé des champs, si l'on peut employer cet euphémisme pour désigner les rues noires de ce vieux quartier. Aussi le petit garçon ne bornait-il pas son vagabondage à ces tristes rues. Le lieu qu'il fréquentait de préférence, c'était le bord de la Seine. Il descendait sur les bas-ports et, en temps de pluie ou de grand soleil, s'asseyait sous les ponts. D'humeur bizarre, un peu sauvage, curieux et réfléchi, il était intrigué par le fleuve. Ce boulevard qui marche, immuable dans sa constante mobilité, ses flots aux couleurs changeantes, dont la voix ne se tait jamais, d'où venait-il? Où allait-il? Il suivait du regard les remous qui se forment incessamment à la surface de l'eau, les petites épaves que la Seine charrie toujours, et il se perdait dans ses pensées. Sa raison ne lui offrait aucune hypothèse satisfaisante. Il savait comment on perce une rue, comment on plante des arbres, cela ce sont des hommes qui le font. Mais il n'avait jamais vu qu'on portât de l'eau à la Seine, et cependant elle coulait toujours, même quand il ne pleuvait pas. « Dis donc, Victor, » demanda-t-il un jour à un camarade qui allait à la laïque, « dis-moi, d'où vient la Seine ?»«
Quelle bêtise !» répondit l'oracle. « De Bercy, donc. »
« Et où va-t-elle ? »
« Tu vois bien que c'est à Auteuil, puisque c'est écrit sur les bateaux omnibus. »
« Qui l'a faite ?»«
Ça, par exemple, tu m'en demandes trop. Ce n'est pas moi pour sûr. » Elle a toujours existé, et elle existera toujours.
Victor n'en dit pas davantage. « Bercy, Auteuil, » se dit l'enfant. « Ce ne doit pas être très loin, il faudra que j'aille voir. » Le petit garçon se dirigea donc vers Bercy. Il y arriva après une longue marche. Mais, hélas, parvenu aux fortifications, il vit la Seine aussi large, aussi placide, aussi mystérieuse que jamais. Aussi loin que ses yeux pouvaient voir, elle s'étendait, brillante au soleil. Il revint tristement sur ses pas, toujours absorbé par le grand problème. Le lendemain matin, il partit pour Auteuil. Sa route fut plus longue encore, et cette fois, il n'était pas soutenu par l'espérance. Aussi ne fut-il pas surpris lorsque, arrivé au viaduc du point du jour, il vit que le fleuve ne s'arrêtait pas. Mais sa tristesse s'en augmenta. Il s'assit sur le quai, et la fatigue, la faim, le désappointement surtout, amenèrent des larmes dans ses yeux. Un bon bourgeois qui cherchait un emplacement convenable pour s'y installer avec sa ligne qu'il tenait à la main et un livre qui sortait de sa poche, vit les larmes du pauvre petit. Il s'approcha, lui parla avec bonté, l'interrogea. L'enfant, d'abord, avait honte de sa tristesse. Il avait peur qu'on se moquât de lui. Cependant, il finit par tout raconter au brave homme. « Pauvre enfant, » dit celui-ci, quand l'histoire fut finie, « tu veux savoir, tu as raison, et tu es plus sage que ceux qui se moquent de toi. Eh bien, écoute, plus loin que Bercy, plus loin que Charenton, si loin qu'il faudrait des semaines à tes petites jambes pour t'y porter, il y a des montagnes plus hautes que la butte de Montmartre et que les coteaux de Meudon qui sont devant nous. C'est là que la Seine a sa source. Elle jaillit avec une grande force, quoiqu'elle ne soit d'abord qu'un grand ruisseau qui peu à peu augmente parce que d'autres ruisseaux viennent se joindre au premier. Elle descend dans la plaine, arrose des champs, des villes, reçoit de larges rivières, enfin arrive à Paris. Et avant de sortir de terre, où était l'eau ? Au ciel, mon enfant.
Au ciel ?
Oui, je t'expliquerai cela tout à l'heure. Maintenant, regarde la Seine. Elle quitte Paris plus sale qu'elle n'y est venue. Mais les souillures qu'elle emporte, elle les déposera en route. Elle marche ainsi longtemps, longtemps, arrose d'autres villes, d'autres campagnes, jusqu'à ce qu'enfin, près d'une ville qu'on nomme Le Havre, tu ne la reconnaîtrais plus. Elle est si large qu'on voit à peine ses bords, et son eau devient salée. »
Le petit homme ouvrait de grands yeux.
« C'est là que s'ouvre un bassin immense, dont on ne peut se faire une idée. On l'appelle la mer.
Il est si grand que de grands bateaux y voguent pendant des mois entiers, sans voir les rives, et si profond que les plus hautes montagnes y disparaîtraient sous les flots. Ses eaux sont salées, sans quoi elles se corromperaient. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Là se jettent tous les fleuves du monde. Et la mer n'est jamais trop pleine ? Non, car il y a une multitude de porteurs d'eau qui y puisent sans cesse pour aller alimenter les sources des rivières. « Des porteurs d'eau ? » s'écria le petit garçon. « J'en connais, il y en a dans notre maison. »« Ah, mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Regarde au ciel. Vois-tu ces nuages ? C'est eux qui vont chercher l'eau à la mer. Ils sont tout entiers formés d'eau qui voyage et va, poussée par le vent, portée par l'air, se déverser en pluie sur les plaines et les montagnes pour revenir à la mer sous forme de ruisseaux et de fleuves. » L'enfant ouvrait tout grand ses yeux et ses oreilles. Il était confondu. Il ne comprenait certes pas ce qu'on lui disait. Pourtant, il avait confiance. On n'invente pas des choses pareilles. Et qui donc a fait tout cela? Qui a creusé la mer? Qui a dit à l'eau de couler? Qui fait courir les nuages? Le vieux monsieur se découvrit et lui montrant le ciel. C'est Dieu, mon enfant. Alors, d'une voix très douce et d'un ton recueilli, le vieillard révéla au petit païen de Paris le mystère des mystères. Il lui parla de celui qui a fait toutes choses et qui était avant qu'elles fussent. Il lui parla de lui comme d'un père. Et quand ils se quittèrent, non sans se donner un autre rendez-vous, l'enfant sentit qu'il était entré dans un autre domaine, qu'il était environné d'un monde au milieu duquel il avait marché sans le voir. La voix des flots mystérieux et changeants avait désormais un sens pour lui. Auditeur, vous ressemblez à cet enfant dont l'ignorance vous fait sourire. Vous êtes vous-même un fleuve mystérieux qui passe à travers le monde sans que vous puissiez en savoir l'origine et la fin. Vous consultez les philosophes et ils vous répondent « La vie commence au berceau et finit à la tombe ». Réponse digne de la palisse et qui n'est pas plus vraie pour cela. Non plus que celle-ci qui fut un temps si populaire. La vie est un produit de la matière. Oui, comme les sources sont un produit du sol. Mais de même que l'eau qui sort de la terre vient du ciel, de même toute vie vient de Dieu. On ne trouvera jamais de réponse plus rationnelle que celle-là. À quoi aboutit notre vie? Dire qu'elle finit à la mort, c'est dire une absurdité. Le mot de mort est un vocable dont nous couvrons notre ignorance. La mer, ce grand sépulcre, ne retient pas ses flots. Il s'élève sans cesse, attiré par le soleil dans une glorieuse résurrection. Ainsi, les profondeurs amères de la mort ne sauraient nous retenir captifs. Après avoir été dépouillés des souillures qui ci-bas nous traînons après nous, nous remonterons vers Dieu, notre source. Ah, la souillure! Voilà la cause de notre ignorance. Des eaux noires ne reflètent la lumière qu'imparfaitement. Des cœurs impurs ne peuvent connaître la vérité. Qui purifiera nos cœurs? Qui dégagera le divin qui dort en chacun de nous? Quand le soleil paraît sur les flots agités de la mer ou sur les eaux stagnantes des marées, on voit un brouillard léger s'élever au-dessus d'elle. Le soleil, ce grand chimiste, transforme ses eaux lourdes ou boueuses en un nuage blanc et pur qui s'irise à ses rayons et décompose sa lumière. Tout ce qui ne peut monter reste dans les bas-fonds, mais on voit s'élever dans les régions sereines, pour redescendre plus loin en bienfaisante rosée, l'eau pure que le soleil a retirée du bourbier ou de l'abîme. Ainsi s'élevait sur nos âmes le soleil de justice et d'amour, Jésus-Christ, Dieu révélé en chair. De la croix où il rayonne, il appelle à lui les cœurs souillés, les âmes mortes. C'est de là qu'il attire tout ce qui est fatigué du péché, alourdi par le mal, touché par le remords. Il transforme quiconque le regarde. Cette goutte de rosée dont parle le poète perle avant de tomber et fange après sa chute. Toute poésie humaine, hélas, s'arrête là, redevient une perle divine quand la grâce de Dieu a brillé sur la fange. Que de vies flétries par le crime sont devenues heureuses et utiles par cette rénovation. l'innombrable multitude des pécheresses repentantes et des péagers convertis forme autour du Christ une auréole, une nuée lumineuse où se reflètent ses perfections. Regardez à lui, vous tous les bouts de la terre, et soyez sauvés. Le fleuve peut encore nous enseigner quelque chose. C'est que nul de nous ne vit pour soi-même. La Seine passe au milieu de Paris, mystérieuse étrangère, reflétant bien plus l'azur ou les étoiles que ce qui se voit sur ses bords. Elle a sa vie solitaire, indépendante, elle n'est pas gouvernée en ses fluctuations par monsieur le préfet de police. Sa voix qu'on entend bien que quand les autres se taisent semble dire « Je marche et nul ne me retiendra ». Pourtant, elle est le plus utile et le plus sillonné de nos boulevards. Elle arrose nos rues, elle emporte au loin nos souillures. Ainsi, le vrai chrétien passe à travers le monde, étranger et voyageur, reflétant bien plus le ciel que la terre, et rien ne l'arrête ici-bas. Il a sa pente naturelle, il faut qu'il aille vers son Dieu. Cependant, il est le plus utile serviteur de l'humanité qui ne vivrait pas sans lui. Le chrétien est cela parce que Jésus-Christ l'a été, l'est encore, le sera jusqu'à la fin. La vie, la parole, l'esprit, l'Église de Jésus-Christ, voilà le fleuve qui purifie la terre, embellit ce pauvre monde. Que cette parole disparaisse, que cet esprit se retire, et l'humanité mourra bientôt. La terre ne sera plus qu'un aride désert. Heureux qui rencontre ce fleuve sur son chemin, heureux qui s'y penche pour y laver son âme, heureux qui vit paisible sur ses bords.